Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'info. Et à la une, le manège désenchanté. Après ses propos homophobes, Marcel Campion ferme boutique. Le roi des forains arrête ses activités. Il n'organisera pas le marché de Noël dans le jardin des Tuileries cet hiver et met en vente sa grande roue. Alors, son départ est-il réel ou pas? Lui a-t-on demandé de quitter la piste? Regrette-t-il ses propos? Que va-t-il faire maintenant? Les réponses de Marcel Campion, c'est à 18h20 dans RTL Soir. On sera aussi à la fête à Neuneux et on en débattra dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition. Avec vous, Isabelle Choquet. Bonsoir, Isabelle.
Bonsoir, Marc-Olivier. Bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Une nouvelle version de l'attaque de la diligence, mais une attaque totalement gratuite. Un bus a été attaqué à Angoulême par une trentaine de jeunes armés de sabres et de battes de baseball. Le trafic est à l'arrêt. L'aplomb désarmant du gendre de la milliardaire. Au procès, pasteur Wojciech Janowski assure qu'il n'a pas commandité le meurtre de sa belle-mère. Vous n'avez pas de preuves, dit-il. Audience historique aux États-Unis. Le Sénat entend en ce moment la femme qui accuse le juge Kavanaugh d'abus sexuels. Il est le candidat de Donald Trump à la Cour suprême. Emmanuel Macron en déplacement aux Antilles, un an après la tempête Irma et alors que la tempête Kirk menace. À suivre également la vaccination des enfants en progrès avant même l'obligation des 11 vaccins en janvier prochain. Une mauvaise nouvelle pour les mauvais payeurs. Les noms des entreprises qui font languir leurs fournisseurs seront publiés dans la presse. Et puis, jackpot pour Maïté Nabirabin. Canal Plus va devoir lui verser près de 3,5 millions d'euros pour l'avoir viré du Grand Journal. La Bourse de Paris, elle termine ce soir en hausse de 0,50% à 5 540 points. Les courses à Compiègne, il fallait jouer le 15, le 9, le 2, le 5 et le 4.
À 18h25, direction les coulisses de l'actualité. Benalla, lâché par son avocat, il ne s'expliquera pas demain dans le bureau des juges. L'audition est reportée. On va vous emmener en coulisses de ce nouvel épisode, et vous apprendrez qu'il a échappé à une probable deuxième mise en examen. 18h30, Alain Duhamel. Ce soir, le match Édouard Philippe, Laurent Wauquiez. 18h35, une histoire d'une amitié particulière. Il y a 4 ans, Jacques Gamblin a écrit quotidiennement au marin Thomas Coville, lancé dans un tour du monde. Jacques, qui a adapté cette correspondance au théâtre, et Thomas, qui prend la mer pour la route du Rhum, font escale tout à l'heure sur RTL. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Demain, le temps sera plus frais et plus nuageux sur la moitié nord.
Ah oui, sur la moitié nord, l'ambiance sera plus maussade demain, avec un peu de vent, même sur les côtes de la Manche, et un petit peu de pluie, mais alors vraiment des pluies très faibles sur les Hauts-de-France, alors qu'au sud de la Loire et sur la côte atlantique, eh bien, ce sera encore un temps très ensoleillé et les températures seront également très contrastées. Sur la moitié nord, les températures vont baisser. On va retrouver des valeurs de saison pour demain après-midi avec seulement 16 degrés à Lille, 20 degrés à Paris, 24 à Besançon, alors que dans le sud, les températures sont encore très estivales, jusqu'à 32 degrés demain après-midi à Nîmes ou encore à Perpignan.
Merci Patricia et à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le trafic des bus, Isabelle, était totalement à l'arrêt aujourd'hui à Angoulême au lendemain d'une attaque extrêmement spectaculaire.
Oui, hier en fin d'après-midi, une trentaine de jeunes armés de sabres et de battes de baseball a encerclé un bus sur une ligne servant essentiellement aux scolaires. Personne n'a été blessé, mais le véhicule a été vandalisé. Aujourd'hui, la société de transport a laissé tous ses bus au dépôt et elle compte bien porter plainte, Denis Grangeau.
Oui, cette véritable scène de guérilla urbaine a alimenté toutes les conversations des chauffeurs. Aujourd'hui, Jean-François Urvoa est délégué syndical FO.
28 ans, c'est la première fois de ma vie où je vois ça en Angoulême. Nous sommes en première ligne, on est en ligne de mire. Je pensais qu'on voyait ça dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Angoulême. Non, ça n'a jamais été une agressivité comme ça. On se demande jusqu'où ça peut aller, quoi, cette agressivité.
Hors micro, certains chauffeurs demandent la présence de policiers, une option que ne valide pas Patrice Grand, directeur de la STGA.
Aujourd'hui, voilà, ce n'est pas envisageable de se dire qu'on a besoin d'un policier derrière chaque véhicule. C'est vraiment en solutionnant les problèmes dans certains quartiers et au niveau de certaines bandes que la situation redeviendra calme et qu'on pourra continuer à vivre sur un territoire qui est agréable et qui ne doit pas nous faire vivre de telles situations.
Les 185 chauffeurs d'Angoulême reprendront leur travail demain matin. Une réunion sur la sécurité est prévue la semaine prochaine.
À Angoulême pour RTL, Denis Grangeau.
Et à Rodez, énorme émotion. Le chef de la police municipale a été tué de plusieurs coups de couteau ce matin en plein centre-ville. Il laisse 3 enfants. L'agresseur est un marginal déséquilibré qui voulait se venger car on venait de lui retirer son chien.
Nous serons à Rodez dans le journal de 19h. La suite du procès Pastor aux assises d'Aix-en-Provence. Le gendre de la milliardaire continue de nier avec un aplomb assez impressionnant.
Hélène Pastor, riche héritière monégasque, a été tuée il y a 4 ans dans un guet-apens à Nice. Son gendre, Wojciech Janowski, est accusé d'avoir commandité cet assassinat pour l'argent. Il avait avoué en garde à vue avant de se rétracter. Aujourd'hui, nouvelle dénégation. « Je n'ai jamais commandité quoi que ce soit », a-t-il affirmé à la barre, ajoutant « Il n'y a pas de preuves ». Une attitude qui indigne Maître Baudou, l'un des avocats de la famille Pastor.
C'est quelqu'un qui me paraît d'une aridité humaine absolument totale. Il y a les aveux de M. Janowski. En ce qui concerne ces aveux, il n'y a pas eu aujourd'hui la moindre explication. Et puis sur un terrain émotionnel, mais la cour d'assises, c'est le lieu de l'émotion. C'est vrai qu'en tout début de séance, lorsqu'il s'est exprimé, nous avons entendu parler d'argent, pas l'expression... d'un moindre sentiment, ni à l'égard de la famille Pastor, ni à l'égard de la famille de M. Darwish. C'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi un monsieur d'une arrogance extrême, permanente, d'une fatuité totale, et disons les choses comme elles sont, qui n'est intéressé que par le fric.
Maître Baudou au micro RTL de Cindy Hubert. Aux États-Unis maintenant, c'est une audience historique qui a débuté tout à l'heure au Sénat, celle du juge Kavanaugh et de son accusatrice.
Ce magistrat de 53 ans, apparemment irréprochable, a été choisi par Donald Trump pour siéger à la toute puissante Cour suprême, mais il est rattrapé par des accusations d'agression sexuelle vieille de 36 ans. Et pour la première fois aujourd'hui, les États-Unis découvrent le visage de celle qui l'accuse. Philippe Corbet, vous suivez cette audience pour RTL, bonsoir.
Bonsoir.
Pour l'instant, cette femme semble tout à fait crédible.
Oui, l'un des deux ment, soit elle, soit le juge Kavanaugh, et si c'est elle, si c'est une manipulatrice, eh bien il faut lui donner un Oscar pour son interprétation. On voit son effroi sur son visage. De sa petite voix, elle raconte pourquoi elle a décidé de parler aussi longtemps après, quand elle a compris que cet ancien camarade allait être nommé à vie à un poste aussi puissant.
Je ne suis pas ici parce que j'en ai envie. Je suis terrifiée, je suis ici parce que je crois que c'est mon devoir civique de vous dire ce qui m'est arrivé quand Brett Kavanaugh et moi étions au lycée. J'ai cru qu'il allait me violer, j'ai pensé qu'il allait me tuer par accident.
Les sanglots dans la voix aussi quand elle raconte comment Kavanaugh et un autre camarade riaient. Ils riaient entre eux, ils avaient du bon temps, ils riaient et j'ai été emprisonné sous l'un des deux garçons. Je n'oublierai jamais ces rires. Elle se dit certaine à 100% que c'était lui. Après 2 heures d'audition maintenant, c'est le scénario catastrophe que redoutaient le juge Kavanaugh, le président Trump et les républicains qui montrent maintenant des signes d'agacement. Car si le juge est confirmé malgré cette audition dévastatrice, regardée en direct par des dizaines de millions de téléspectateurs, beaucoup d'électeurs et d'électrices resteront marqués par ce témoignage.
Aux États-Unis pour RTL, Philippe Corbet. Direction maintenant, Isabelle, les Antilles, où Emmanuel Macron entame aujourd'hui un déplacement de 4 jours.
Oui, le chef de l'État vient d'arriver en Martinique un an après le passage dévastateur de la tempête Irma. Dominique Tenza, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL sur place. Bonsoir.
Bonsoir.
Un an après, évidemment, c'est encore la saison des cyclones et la visite présidentielle est menacée.
Oui, avec un invité de dernière minute, pas vraiment prévu au programme et avec lequel il faut pourtant composer. Le cyclone Kirk qui a un peu modifié la visite du président.
Évidemment, le contexte météorologique vient un peu bousculer ce déplacement, mais c'est somme toute le quotidien de celles et ceux qui vivent dans les Caraïbes. Et donc, je serai au poste de crise pour pouvoir suivre aussi, au plus fort de cette tempête tropicale, eh bien, les mises en sécurité et les dispositions qui sont prises par les services de l'État, dont je veux ici saluer la mobilisation et l'excellence.
Emmanuel Macron avait prévu de tester sa popularité aujourd'hui dans les rues de Fort-de-France. Eh bien, ce ne sera pas possible pour des raisons de sécurité. Les rassemblements en plein air sont interdits. Point sensible de cette première journée, la visite en ce moment même d'une exploitation agricole contaminée par le chlordécone, pesticide ultra toxique largement utilisé jusque dans les années 90 par les producteurs de bananes et qui aujourd'hui est responsable de centaines de cas de cancer de la prostate. Les habitants attendent un engagement de l'État. Demain, direction la Guadeloupe et puis ce sera Saint-Martin à partir de samedi, un an après le passage d'Irma, tenter de calmer l'impatience des habitants sur place. Sans doute la partie la plus compliquée du déplacement.
En Martinique pour RTL, Dominique Tenza qui suit le président.
RTL soir 18h09.
On marque une pause et dans un instant, le retour en grâce des vaccins.
18h10, RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Vous le savez, pour les nouveau-nés, il y a déjà 11 vaccins obligatoires. Mais maintenant, d'ores et déjà pour les enfants,
les plus grands, donc la vaccination progresse.
Oui, on a beaucoup parlé ces derniers mois de la désaffection des Français, de la méfiance suscitée par les vaccins. À croire que le débat a porté ses fruits, Odile Pouget, on constate un frémissement.
Ah oui, c'est même plus qu'un frémissement, selon les chiffres communiqués par Santé publique France et qui portent sur les 5 premiers mois de l'année. On est par exemple en un an à plus de 5% d'augmentation pour les infections à méningocoque C, parmi lesquelles on sait une méningite très grave, injection que l'on fait à l'âge de 12 mois. Et puis concernant le fameux ROR, rougeole, oreillon, rubéole, on passe à 75% de bébés vaccinés à l'âge d'un an. Il n'y en avait que 72% l'an dernier. Selon le ministère de la Santé, l'épidémie de rougeole qui a sévi en France ces derniers mois avec près de 2800 cas enregistrés et 3 décès a très certainement contribué à cette augmentation. Le frémissement ne s'arrête pas là. Il concerne aussi le vaccin HPV qui ne fait pas partie des vaccins obligatoires. Il est destiné à prévenir notamment le cancer du col de l'utérus. On sait que la France est très en retard par rapport à la plupart des grands pays. Moins de 20% des jeunes filles sont vaccinées. Alors on reste encore en dessous de ce chiffre, mais on y est presque, du moins pour la première dose, avec 19,6%. C'est quand même 3 points de plus qu'à la même période l'an dernier.
Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Les mauvais payeurs montrés du doigt, leurs noms seront bientôt publiés dans la presse.
Oui, les députés ont adopté la nuit dernière un amendement au projet de loi Pacte. Il autorise l'administration à faire paraître dans les journaux régionaux les noms des entreprises sanctionnées pour des défauts de paiement de leurs fournisseurs. Il était défendu notamment par la députée En Marche, Olivia Grégoire.
J'ai souhaité que nous tapions peut-être, si je puis me permettre, là où ça fait mal aujourd'hui. J'ai proposé qu'en plus de la condamnation pécuniaire sur ces très mauvais payeurs caractéristiques, ils soient aussi contraints de publier dans la presse des annonces légales, c'est-à-dire bien souvent la presse régionale, le fait qu'ils ont été condamnés pour délais de paiement abusifs et pour être des mauvais payeurs. Nous cherchons là, quelque part, à atteindre la réputation des entreprises qui ne sont pas vertueuses et qui sont parfois irresponsables en matière de délais de paiement, en estimant qu'aujourd'hui, l'actif réputationnel est un actif qui est parfois bien plus fort que la simple sanction financière.
La députée En Marche, Olivia Grégoire, au micro RTL de Nicolas Burnand.
Bruno Le Maire veut des éclaircissements sur certaines pratiques des banques. Une association de consommateurs dénonce en effet des sanctions abusives en cas de découvert. Un contretemps dans la vente des Girondins de Bordeaux. Le vote concernant la location du stade de Bordeaux est finalement reporté au 12 octobre. La vente elle-même n'est pas remise en cause, mais Alain Juppé attend visiblement certaines garanties.
Le jackpot, hein, près de 3,5 millions d'euros, indemnité XXL pour Maïtena Birabin, l'ancienne animatrice du Grand Journal sur Canal+.
Elle avait été appelée en 2015 par Vincent Bolloré qui venait de prendre le contrôle du groupe. Un an plus tard, elle était licenciée pour faute grave. Du coup, pas d'indemnité de rupture. Mais la blonde à fort caractère ne s'est pas laissée faire. Résultat, Isabelle Morini-Bosque, Canal+, qui avait voulu jouer au plus fin, se retrouve bien attrapée.
C'est effectivement le sentiment qu'ont eu les prud'hommes. Et pourtant, au départ, c'est vraiment un beau roman. C'est une belle histoire entre Maïtena Birabin et le patron du groupe, Vincent Bolloré, quand il l'engage en 2015, vous l'avez dit. Il lui promet même et le fauteuil du Grand Journal jusqu'en 2022 et une somme forfaitaire de quelque 2 550 000 euros en cas de rupture. Maïtena Birabin est alors de toutes les rentrées, de toutes les sorties de Canal jusqu'à sa sortie définitive en juillet 2016. Le désamour commence avec des audiences en berne, dû aussi à la faiblesse des programmes précédents, sa tranche. La situation se dégrade rapidement. La chaîne finit par accuser sa journaliste vedette, je cite, d'exercice déloyal du contrat et de dénoncer son caractère incontrôlable, sa complaisance un soir face au FN ou encore sa contestation des décisions de la direction, comme celle d'envoyer Michel Denisot à sa place au Festival de Cannes. La présentatrice vedette contre-attaque nie et entre autres affirme que dès le mois de mai, des contacts avaient été pris avec Anne-Elisabeth Lemoine pour la remplacer. Elle réclame donc 4 millions d'euros, dont 1 million pour licenciement sans cause réelle et 500 000 euros pour préjudice moral. Aujourd'hui, les prud'hommes ont tranché. Ils lui accordent, vous l'avez dit aussi, 3 400 000 euros, dont 510 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause sérieuse, plus les fameux 2 550 000 euros de rupture contractuelle. Comme quoi, quand on aime, on ne compte pas, mais quand on n'aime plus, franchement, tout compte.
Merci Isabelle Morini-Bosque, spécialiste télé de RTL. À tout à l'heure, Isabelle.
À tout à l'heure. Choquée.